Vos verres de lunettes. Vous pensez qu'ils ne font que corriger votre vue. Pour nous, chez ZEISS, ils font bien plus que ça. En tant qu'entreprise détenue par une fondation, ZEISS investit largement dans la recherche scientifique. Choisir des verres ZEISS, c'est contribuer au traitement du cancer du sein. C'est aussi participer à l'essor des biotechnologies ou encore à celui de l'intelligence artificielle pour la santé. Alors c'est sûr, vos verres de lunettes vous servent à voir. Mais vous ne les choisirez plus de la même façon. ZEISS. Trouvez votre opticien sur ZEISS.fr. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Monsieur le ministre, nous sommes heureux et fiers de vous présenter les thèmes pour la jeunesse au plein air, vendu par tous nos petits camarades des écoles de France et de l'Union française, au profit de ceux qui se rendront de colonies de vacances.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Les vers célèbres de Victor Hugo en 1832 affichent avec tendresse une centralité de l'enfant qui pourtant ne s'affirma pas, loin de là, au cours du XIXe siècle. Il a fallu le nôtre, dans la suite de ses générations, pour que se concrétise progressivement l'enfant roi, tel qu'on l'a souvent désigné. Il a fallu longtemps pour que son existence fût protégée, pour que ses droits fussent reconnus, pour que sa santé fût garantie, pour que sa parole fût écoutée. Une indifférence mélangée à une pudeur malvenue a souvent négligé ou dissimulé, jusqu'à tout récemment, les atteintes à son intégrité et à son équilibre, avec la honte du harcèlement par les adultes ou par des camarades d'école. Éric Allary, mon invité, docteur de l'Institut d'études politiques et professeur en classe préparatoire au lycée Descartes de Tours, s'est consacré récemment dans un beau livre à une synthèse hardie sur les évolutions des situations et de l'image de l'enfance dans notre pays. Il est assez subtil pour savoir qu'à toutes les généralisations, il est loisible d'opposer une foule d'exceptions individuelles et bien des différences entre les milieux sociaux. Il n'empêche que se définissent, globalement parlant, les étapes de cette histoire au fil de laquelle la société française a progressivement façonné la figure de l'enfant telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce fut en profondeur, selon des ressorts collectifs. Le rôle des guerres a été majeur et elles ont eu un rôle puissamment perturbateur sur les comportements des adultes, donc sur l'univers des enfants. Mais les facteurs démographiques, économiques, politiques, culturels et religieux ont aussi beaucoup compté dans le mouvement d'ensemble et il devrait être stimulant de les démêler.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comment passer ? J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenue? Et seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
Éric Allary, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannonet.
Barbara, mon enfance, 1968, il me semble qu'elle nous conduit tout droit d'emblée à l'enfance comme moment, comme expérience et aussi comme mémoire.
Oui, tout à fait. Barbara nous renvoie aux souvenirs, à chacun de nos souvenirs. Et quand on est historien d'un certain âge et qu'on travaille sur l'histoire des enfants, on est obligé de penser à sa propre enfance, qui est d'ailleurs très difficile de travailler sur les années de mon enfance, les années 1960, 70, surtout 70, 80, c'était pas toujours facile. Mais elle nous renvoie aussi à Proust, elle nous renvoie évidemment à cette odeur des madeleines de Proust, et en même temps, elle nous renvoie à cette idée qu'il y a un monde de l'enfance séparé du monde adulte, c'est-à-dire à un moment où l'enfant, finalement, a ses secrets, qu'il ne peut pas dévoiler par pudeur, et ses parents ne peuvent pas non plus dévoiler leurs émotions face à leurs enfants.
Comment définissez-vous le passage de l'enfance à l'adolescence? Vous avez d'ailleurs à nous dire d'où vient le mot « enfance ». Ce n'est pas absolument évident.
Non, ce n'est pas évident. Quand on fait quelques recherches dans le Littré et autres dictionnaires de la langue française, on remonte quasiment à une racine qui date du Xe siècle. « Infants », c'est-à-dire celui qui ne parle pas, celui qui est muet. Alors on se dit, bon sang, mais depuis le Xe siècle, l'enfant est muet, eh bien il est muet encore pendant une grande partie du XIXe siècle et bien sûr du XXe siècle. En fait, c'est l'idée que l'enfant n'a jamais son mot à dire. C'est un être plutôt réifié, c'est une bouche à nourrir, c'est un futur soldat pour la patrie. Voilà comment il a été considéré, ce qui n'empêche pas l'amour parental pour les enfants. Et puis, ensuite, il y a une sorte de sophistication de la définition de l'enfant, déjà à la Belle Époque, sous la Troisième République, qui définit l'enfant comme un être important, plus important en tout cas, un être à protéger. Il faut dire aussi que le XIXe siècle, et Dominique Khalifa nous l'a montré, il y a eu beaucoup de cas médiatisés d'enfants martyrs. Il faut donc finalement prendre cet enfant en compte pour l'envoyer à l'école, convaincre les parents qu'il faut envoyer l'enfant à l'école. C'est l'être humain, l'enfant aujourd'hui, qui est entendu comme celui qui est à respecter. Mais
vous nous dites qu'il est personnifié, il était muet, il était réifié, ce sont vos formules, et maintenant il est personnifié. C'est cette histoire que nous allons considérer à loisir ce matin. Il faut que nous nous reportions aux dernières années du XIXe siècle pour commencer ce parcours et à l'avant-première guerre mondiale.
J'ai commencé à travailler sur la Belle Époque parce que effectivement la Troisième République accélère des mesures de protection de l'enfant et de l'enfance, même si les deux termes sont différents. L'enfance et l'individu, l'enfance et tout ce qui est relié à l'enfant, d'où le milieu notamment dont Philippe Ariès a été un des pionniers à étudier, même si elle a été remis en cause par certains historiens. Et à la Belle Époque aussi, c'est l'époque de Pasteur, c'est l'époque des grandes découvertes scientifiques, c'est l'époque où on essaie de soigner les enfants de la rage. Il y a des lois sur la maltraitance, 1889, des lois sur... Une loi en 1898 sur la répression de la violence contre les enfants, bien que le droit de correction soit toujours autorisé depuis le Code civil et ne sera supprimé que très 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 longtemps après,
à
la fin du XXe siècle.
Le dictionnaire de la fessée, du fouet et de la fessée, qui est paru récemment, est à cet égard tout à fait explicite. Et j'observe qu'encore en 1979, apprenant que les Suédois ont voté une loi contre la gifle, l'Express, l'hebdomadaire L'Express, s'écrit « Ils sont fous, ces Suédois
!» Oui, et alors, la loi anti-fessée, elle est très récente. Elle date de la fin des années 2010, même à l'aube de l'année 2020 pour la France, cette loi anti-fessée. Comme si les hommes politiques et les femmes politiques avaient bien du mal à contrecarrer ce qui était devenu culturel, la fessée, la correction. Alors, seul le père avait le droit de corriger depuis le Code civil, mais à partir de 1945, la mère aussi a pu être autorisée à donner une correction avec l'autorisation du juge, parce que, évidemment, à l'époque aussi, on réforme la justice des mineurs. Donc, c'est assez éloquent.
Vous parlez de la santé. J'aime beaucoup un propos de Georges Clemenceau dans son recueil d'articles qui s'appelle Le Grand Pan, où il évoque, il était à ce moment-là médecin des pauvres à Montmartre, il évoque la mort d'un petit enfant qu'il appelle Colibri, qu'il a soigné et dont il ne peut pas, malgré tous ses efforts, empêcher la mort du croup. Il y a une quantité de maladies qu'à l'époque, les enfants subissent et qu'on ne sait pas traiter.
Très souvent, qu'on désigne sous un nom générique, par exemple, leucémie. Leucémie, ça peut désigner des tas de maladies aujourd'hui, ou des types de cancers bien différents. La tuberculose tue énormément. La tuberculose tue... C'est la maladie qui tue le plus d'enfants au XIXe siècle. On parle souvent du choléra spectaculaire, mais la tuberculose est beaucoup plus tueuse.
C'est là probablement qu'il faut distinguer... Déjà, les enfants de la classe bourgeoise et ceux qui appartiennent aux classes populaires dans la manière d'affronter la maladie. La puériculture naît dans ces années-là, avec la fameuse goutte de lait. Dites-nous-en un mot, s'il vous plaît, Éric Alary.
Alors la goutte de lait, c'est encore ce souci que la Troisième République a eu pour les enfants, mais surtout, plus que la Troisième République, des individus, auxquels d'ailleurs l'État ne croyait pas au départ. Et la goutte de lait a été créée à Fécamp, et donc c'est un médecin qui décide... Donc de créer un centre pour accueillir des femmes qui sont plutôt en difficulté, en grande difficulté, pour leur permettre de donner un bon lait aux enfants, c'est-à-dire un lait stérilisé. En même temps, il y a toute une réflexion qui court à l'époque, juste avant la Grande Guerre, sur le lait maternel. Le lait maternel appartient à l'enfant, disent certains médecins. C'est un leitmotiv qu'on retrouve chez les premiers spécialistes de la puériculture. Et donc Fécamp va être un laboratoire de ce soin apporté aux premiers jours, aux premières semaines de l'enfant, avec un lait stérilisé ou un lait maternel. Le débat est alors ouvert à ce moment-là. Et à l'issue de la Première Guerre mondiale, au début des années 20, il existe 200 gouttes de lait en France. C'est à Paris qu'on en trouve le plus. Et le taux de mortalité infantile va reculer grâce à la goutte de lait.
Le lait continue d'ailleurs d'être un objet politique, si je puis dire, puisqu'on se rappelle que sous le ministère de Pierre Mendès-France, en 1954, il y avait une campagne pour le lait et pour le sucre. Le chef du gouvernement, Mendès-France, s'était à cet égard exprimé à la radio d'une façon qui avait frappé.
Tout à fait. Évidemment, le lait en 1954, la France... On n'en manque pas, si vous voulez. Mais on est quand même très marqué en France, et les Français sont très marqués aussi par les pénuries, le rationnement de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette idée aussi qu'il faut limer les différences sociales et que c'est le rôle de l'école qui devient le refuge aussi pour nourrir les enfants ouvriers, les enfants paysans. Les paysans ne manquent pas de lait, mais ça s'adresse surtout aux enfants des villes. On voit bien qu'il y a des disparités entre le traitement, évidemment, de l'enfant des villes et celui des campagnes.
L'affirmation de l'école comme gratuite et obligatoire constitue un pas décisif vers une autre enfance, avec le certificat d'études primaires qui élargit aux classes populaires l'ambition d'une vraie éducation.
Et une véritable obsession, le CEP qui trône dans la cuisine à côté du poêle, au-dessus du poêle, etc. Et c'est vrai que le CEP va devenir véritablement une institution, un rituel, enfin un moment de passage très important, il faut l'avoir. Oh, il faut quand même rappeler que avant que 50% des enfants ne l'obtiennent, il faut attendre tout de même les années 20, les années 30. Le CEP avant la guerre, certaines familles, notamment les familles paysannes, ne sont pas convaincues de son importance. Et pourtant, la République va faire un travail extraordinaire pour convaincre notamment ces paysans, ces familles de paysans, de faire venir les enfants à l'école, quitte à faire 10 km à pied par jour. Pour beaucoup d'enfants dont on a les quelques rares souvenirs pour beaucoup d'enfants, où il suffirait de relire aussi Mazire-en-Gâtine, Roger Tabot, Mon village, qui avait été publié par la Fondation nationale des sciences politiques dans les années 70, où il raconte combien aller à l'école est une liberté pour beaucoup d'enfants, filles ou garçons. Du reste, pendant ce temps-là, il y avait moins de travaux à faire. Cela dit, les travaux des champs attendaient les enfants au retour.
Il est clair que, comme vous le dites, l'enfant parle très peu. On parle de lui, mais il parle guère lui-même. Vous arrêtez à peu près l'âge de l'enfant à 14 ans ?
Alors oui, par commodité en France, on va dire plutôt que 13 ans dans un premier temps, 14 ans à partir de 1936, dès lors que l'école est obligatoire, un an de plus. Et évidemment, on pourrait prendre de nombreuses définitions, définitions juridiques, définitions sociologiques, mais c'est vrai que le CEP, le certificat d'études primaires, est bien pratique, puisque à l'issue du certificat d'études primaires, très grande majorité des enfants allaient au travail.
Vous faites fond sur quels auteurs ? Valérie Larbaud, Les fameuses enfantines, du côté enfants, bourgeois, ou
oui.
Pierre-Jacques Elias, le fameux Cheval d'Orgueil, qui a
oui.
été un best-seller
Exactement.
Du côté de la Bretagne.
Oui, même si des fois il a été contesté, hein, dans ce qu'il a dit sur cette enfance bretonne qui aurait été sinistre, qui aurait été malheureuse, extrêmement rigoureuse. Je pense aussi à Simone de Beauvoir, mémoire d'une jeune fille rangée. Je pense aussi à celle... à Françoise Marette, la future Françoise Dolto, qui écrit aussi au tout début de la Première Guerre mondiale et qui, dès l'âge de 6-7 ans, raconte aussi ses souvenirs et pas seulement ceux de la guerre.
Il faut, je le disais, à la fois généraliser Éric Alary sur ses moments et puis aussi distinguer, suivant les classes sociales, les milieux sociaux, ceux où la religion pèse beaucoup sont en majorité, avant 14.
La religion pèse encore sur pratiquement tous les milieux sociaux en France, même si la loi de 1905, cette loi de séparation des églises et de l'État, est une loi fondamentale qui permet finalement aux Français de vivre à peu près en harmonie et de façon apaisée, n'empêche pas les Français de décider ce qui est bon pour leurs enfants. Ce qui d'ailleurs rend difficile l'intervention de l'État dans l'éducation. Et d'ailleurs l'État, bien souvent, voit la famille comme la continuation de ce qui a été donné ou délivré à l'école et vice-versa. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de connivence entre l'État et les parents pour l'éducation. Hors de question que l'État se mêle de l'affaire, des affaires religieuses. La plupart des enfants font toujours leur communion et notamment reçoivent le sacrement très important de la confirmation.
Il est bien des cas aussi où l'enfant devient un enjeu au village entre l'influence du prêtre et celui de l'instituteur.
On le voit dans de nombreuses régions. On le voit en Bretagne, dans le cas de régions plutôt très pratiquantes encore. On le voit dans d'autres régions encore croyantes, mais de moins en moins pratiquantes, comme par exemple la Nièvre, le Cher, dans les régions viticoles du Sud aussi, où là c'est la guerre entre l'instituteur, le prêtre et le maire qui est au milieu.
Ça se concrétise souvent dans l'opposition des manuels en particulier, les nouveaux manuels républicains indignes du côté de l'Église.
Oui, alors évidemment, ces personnages qui sont choisis par les Lavis et autres dans les manuels de la Troisième République indignent beaucoup et scandalisent les prêtres qui pensent que, effectivement, tous ces personnages qui sont choisis par la Troisième République sont des suppôts de Satan. Il y a des gens qui vont très très loin, il y a des prêtres qui vont très très loin, qui menacent les familles les enfants continuent à aller à l'école publique quand il y a deux écoles, la privée et la publique, dans le même village, qui est surtout le vrai dans le Grand Ouest.
Il faut que nous avancions, Éric Alary, que nous en arrivions à la guerre. Évidemment, c'est un moment, la Grande Guerre, c'est un moment essentiel dans cette histoire que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution de la situation de l'enfance dans notre société. Le choc de la guerre a été évidemment essentiel. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation, je vous propose d'entendre Charles Aznavour qui parle des enfants de la guerre en général. Mais ça s'applique fort bien à celle de 1914-1918.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu. Ils ont eu des chimères pour aiguiser
et pris les cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de l'orage et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim. On vieillit avant l'âge et grandit sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, avec leur mine fière et leurs yeux trop grands. Ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et les mains étrangères égorger leur printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur, qui défiait la souffrance et taisait leurs émois, mais vivait l'espérance, sont comme toi et moi, des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
Cette chanson de Charles Aznavour, Les enfants de la guerre, remonte Éric Alary à 1968. Ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et des mains étrangères égorger leur printemps, ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur et de froid.
Tel est le cas pendant la Première Guerre mondiale, dès la mobilisation. C'est le choc le 1er août. Dès le 4 août, d'ailleurs, René Viviani, président du Conseil, va lire ce discours très poignant à la Chambre des députés, discours écrit par Poincaré, qui appelle les femmes, les mères et les enfants à rentrer les moissons. 3 500 000 hommes partent le 2 août. Les enfants accompagnent leur papa, leur maman, jusqu'au quai. Et ensuite, ces trains qui vont emmener les pères jusqu'aux casernes. On a plusieurs souvenirs, notamment celui de Simone de Beauvoir.
Dans ses fameux mémoires d'une jeune fille rangée, oui, elle écrit « J'avais entendu le mot « guerre » pour la première fois à Lyon, un an plus tôt. En temps de guerre, m'avait-on dit, des gens tuent d'autres gens. » Et je m'étais demandé où m'enfuirais-je. Je me pris à redouter les innombrables Japonais qui vendaient alors au carrefour des éventails et des lanternes de papier. Mais non, nos ennemis, c'étaient les Allemands aux casques pointus qui déjà nous avaient volé l'Alsace-Lorraine.
Et oui, elle est la mémoire de ce que les enfants ont, entre guillemets, subi à l'école pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il faut, pour certains, évidemment, récupérer l'Alsace et la Moselle. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce que dit la propagande. 2 500 000 enfants, enfin, un peu moins, sont occupés depuis 1870.
Et qui restent avec leur mère et avec leurs grands-parents.
Alors Simone de Beauvoir est très jeune, et pourtant elle a une perception de la guerre. On dit souvent que les enfants de moins de 6 ans n'ont pas de perception des événements autour d'eux. C'est très faux. Elle avait une perception des événements, comme d'ailleurs la future Françoise Dolto avait cette perception de la gravité des événements, la tristesse de sa mère. Simone de Beauvoir dit à un moment... Une fois le père accompagné sur le quai de la gare, nous rentrons par les couloirs du métro, maman pleurait mais tournait la tête vers le mur. Cette forme de pudeur aussi, où on ne montre pas à ses enfants pour leur donner de la force, par pudeur aussi, on ne montre pas sa tristesse, et le moment est grave.
Le noir devient une couleur souvent dominante.
Exactement, c'est-à-dire que très rapidement, dès le mois d'août, le nombre de morts par jour est assez incroyable sur le front. Et très rapidement, des trains vont déverser des blessés, des morts, qui à Tours, qui à l'arrière du front, d'une façon générale. Et les enfants voient leur mère aussi aller aider, parfois, d'autres femmes, pas mal, beaucoup de femmes de la bourgeoisie dans les grandes villes vont aller justement accueillir soit les blessés, soit les morts, qui donc sont délivrés sur les quais avant d'être distribués, pourrait-on dire, vers les hôpitaux à l'arrière du front. Le monde est totalement... bouleversé. Et je dirais que le traumatisme de la guerre gomme les frontières sociales. Chaque enfant, quel que soit son milieu social, sa région, est au contact de la guerre. Qui plus est, ceux qui sont dans la région de Sedan, comme Yves Congar, le futur cardinal, et qui raconte...
Dans ses mémoires.
Qui raconte dans ses mémoires les premiers bombardements à Sedan, et qui racontera pendant toute la guerre ce qu'ont subi les Français occupés.
Les contenus de l'enseignement de l'école, d'ailleurs, évoluent dans un sens patriotique, comme il est assez naturel, mais après coup, c'est très frappant. Même les bandes dessinées pour enfants changent. Bécassine, la fameuse Bécassine, la bretonne, devient très chauvine.
Oui, Bécassine, une bande dessinée qui a été créée en 1905, qui était plutôt lue par les filles de la petite bourgeoisie et qui aimait beaucoup se moquer de cette paysanne qui venait à la ville, comme on disait, et qui en fait est beaucoup plus lue, Bécassine, par les classes moyennes pendant la Première Guerre mondiale. Elle va à la guerre, elle va aussi, il y a un album aussi où elle a une aventure avec les alliés, et bien sûr, les mesures ministérielles se multiplient à partir de 1915 pour inciter les instituteurs et les institutrices à mettre la guerre au centre des rédactions, au centre de, notamment des problèmes de mathématiques. J'ai retrouvé des problèmes de mathématiques où, justement, il faut épargner. Donc, il y a des chiffres qui sont donnés pour constituer la meilleure épargne pour un enfant qui voudrait aider ses parents à gagner la guerre.
Il y a un autre aspect, ce sont les enfants qui jouent à la guerre. On les connaît par des photographies multiples et par des dessins, des caricatures. C'est le moment où Poulbeau joue un rôle très important à Montmartre, et pas seulement. Les Poulbeau deviennent les petits-enfants laissés à eux-mêmes et qui jouent dans la rue.
Oui, ces petites vignettes, et Poulbeau participe aussi à la propagande. Par exemple, il y a des bruits qui courent sur les atrocités qui ont été étudiées par Krumach et Antoine Prost. Et Poulbeau va notamment commettre un certain nombre de petites vignettes, dont une où l'on voit une petite fille qui enterre sa propre main qui aurait été coupée par les Allemands, ces Allemands qui sont si terribles. Et chacun s'envoie les atrocités, et les enfants, évidemment, ont très très peur. Ce qui, évidemment, permet à l'instituteur et à l'institutrice ensuite d'inciter l'enfant à l'effort de guerre, dès lors que la guerre se prolonge. Évidemment, ça n'est valable qu'à partir de 1915. Personne n'imaginait, en août-septembre 1914, que la guerre durerait aussi longtemps. Donc il faut aussi aider les enfants à résister au temps.
Les enfants de l'entre-deux-guerres, peut-on dire que ce sont des enfants du deuil? D'abord, ils sont peu nombreux, puisqu'il y a eu beaucoup de manque à naître, si je puis dire, compte tenu des effets de la guerre. La démographie compte et pèse.
La démographie compte et pèse. Et déjà, le pays est vieillissant avant la Première Guerre mondiale. La Troisième République s'est beaucoup battue pour lancer les premières réformes natalistes. Un certain nombre de chefs d'entreprise qui, avant la guerre, vont reprendre leur politique, je dirais, plus individuelle au sein des entreprises après la guerre pour inciter les familles à faire des enfants avec des allocations. Mais il manque des hommes. Il manque plus d'1,5 million hommes. Et évidemment, la France est le pays qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, compte le plus d'encoches dans sa pyramide des âges, et notamment dû à cette guerre.
C'est aussi pourquoi on interdit de façon plus drastique qu'auparavant le contrôle des naissances.
Oui, c'est-à-dire que là aussi...
On punit beaucoup plus, en particulier, l'avortement.
L'avortement est beaucoup plus, évidemment, puni. À la fin des années 20, les lois sont de plus en plus dures. Et évidemment, là, l'État peut trouver le concours de l'Église, le dimanche, au moment de l'office, bien évidemment.
C'est aussi le temps, Éric Alary, où on invente le principe des pupilles de la nation, dès la Grande Guerre.
Oui, c'est une loi du 28 juillet 1917 qui crée cette catégorie de futurs citoyens. Une nouvelle catégorie, les pupilles de la nation, à ne pas confondre avec les pupilles de l'État.
Enfants de la patrie.
Ce sont les enfants de la patrie, tout à fait. Il y a tout de même, alors les estimations changent d'un historien ou d'une historienne à l'autre, je pense notamment à Manon Pignot pour les historiennes, mais il y a 950 000 à 1 200 000 orphelins qui sont comptés dans les années 20 et les années 30. Les chiffres évoluent, puisqu'il y a beaucoup de papas qui, touchés par les gaz, touchés par les graves blessures, vont mourir. Régulièrement dans les années 20-1930.
Après leur retour souvent difficile, l'atmosphère familiale en est profondément perturbée. Et on a des témoignages de nombreux enfants ultérieurement.
Effectivement, il y a des pères qui se sont alcoolisés pendant la Grande Guerre, qui battent leurs enfants. Il y a des pères qui décident de demander le divorce. D'ailleurs, le taux de divorce augmente après la Grande Guerre. Ce sont des pères qui, conscients de ce du mal qu'ils pourraient faire aux leurs, demandent le divorce. C'est majoritairement des hommes qui demandent le divorce, qui ont combattu pendant la guerre, et qui demandent donc le divorce en 1918, 1919, 1920. Et donc le pupille de la nation, c'est celui qui va être pris en charge par l'État. Alors entendons par là surtout un financement de ses études, un financement de sa scolarité. Donc c'est très très important hein, pour beaucoup de mamans qui se retrouvent finalement toutes seules avec des fois deux, trois, voire quatre enfants.
Mais cette entre-deux-guerres, c'est aussi celle où beaucoup commencent de se préoccuper de la santé d'un côté et de l'autre, la santé à la fois pour lutter contre les maladies, les premières vaccinations, et d'autre part l'idée de l'enfance en plein air avec les colonies de vacances. Pour les évoquer, je vous propose d'entendre cette chanson anonyme qui s'appelle « Les gosses de Bagnolet » sur l'air des gars de la marine, une chanson de 1932 qui célèbre, du côté communiste, vous allez le voir, les premiers départs pour ces colonies de vacances.
Les gosses de Bagnolet sont tous en bonne santé depuis qu'à la mairie de l'ordre a été mis. Les élus ouvriers ont bien su apprécier ce qui manquait aux enfants pour qu'ils soient tous contents. De l'air, de la gaieté, tout ce qu'on veut à manger, pouvoir bien s'amuser et dans l'océan se baigner. C'est nous, les gosses de la vidrille, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. La vinerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est content. Tout là-haut sur la butte, là-bas à Bagnolet, les copains qui culbutent n'ont pas le bonheur complet. Tirant nos bérets rouges et nos costumes kaki, sur la plage où l'on bouge, notre peau s'est brunie. On pêche des bigorneaux, on plonge, on saute dans l'eau. Ça creuse des estomacs, mais y'a de quoi piquer dans le plat. C'est nous, les gosses de la vinerie, qui bien loin du mauvais air font un séjour à la mer. Les gosses de riches en meurent d'envie, le séjour est tellement bon à Oléron. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. C'est nous, les gosses de la vinerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est content. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux, joyeux. C'est nous, les gosses de la vinerie, tout là-bas à Oléron, on est heureux, on est content.
Il faut préciser que la vignerie, c'est un centre tout neuf qui date précisément 1932, qui est au centre de l'île d'Oléron où les communistes de Bagnolet conduisent les enfants. Ces colonies de vacances sont mixtes ou pas, ou c'est encore uniquement des garçons?
Alors, ce sont des garçons et puis quelques guildes féminines qui seront créées dans les années 20, mais jamais de mélange. La mixité, que ce soit dans les centres de vacances, le scoutisme, les colonies et surtout l'école, c'est extrêmement tardif. La société française est une société qui, en Europe, est très en retard sur cette réflexion portant sur l'apprentissage, mêlant à la fois les garçons et les filles dans une même salle. Il faut attendre les lois de René Haby, en 1975.
Sous Giscard d'Estaing,
pour enfin voir la mixité obligatoire. Même si, depuis la fin des années 1960, notamment après mai 68, un certain nombre de collèges qui étaient programmés à la construction et de lycées également programmés à la construction étaient prévus déjà tout de même pour accueillir des classes de garçons et de filles.
Oui, à partir de là, les lycées sont destinés à être mixtes.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ailes pour les filles et d'ailes pour les garçons.
En revanche, dans l'entre-deux-guerres, il n'en est pas question. De même que le scoutisme, d'ailleurs, le scoutisme reste masculin et un peu féminin, mais séparément.
Ça, très 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 rares sont les filles qui, dans l'entre-deux-guerres, profiteront de ce qu'on appelle les guildes. D'ailleurs, on ne parle pas de scoutisme, on parle de guildes pour les jeunes filles. Et le scoutisme, évidemment, c'est là un lieu qui permet de prendre l'air. C'est aussi la conséquence de tous ces débats entre hygiénistes, pédagogues, qui veulent aussi améliorer la santé de ces enfants, qui potentiellement ces enfants garçons seraient peut-être un jour, ou pourraient être un jour de nouveau de futurs soldats. C'est l'idée de les rendre plus costauds, plus solides. C'est aussi l'idée d'amener les parents des classes populaires, rurales et citadines, à lâcher un peu leurs enfants. Cette idée quand même que l'enfant peut avoir quelque temps de liberté, c'est tout à fait nouveau.
On progresse vers notre complètement situation contemporaine.
Voilà, on progresse vers nos situations contemporaines et le Front populaire, évidemment, rebondira, si vous me permettez le verbe, sur cette considération autour de l'enfant qui, de plus en plus, n'est pas considéré comme un adulte en miniature, mais de plus en plus comme ayant une personnalité. C'est très lent.
Les scouts affirment qu'ils restituent aux enfants cette personnalité. François Bloch-Léné, qui est un personnage considérable dans au moment des Trente Glorieuses, profession fonctionnaire, un inspecteur des finances qui a beaucoup compté, qui a été très symbolique de cet essor après la guerre de 39-45, raconte son expérience de scoutisme dans l'extrait que je vais vous proposer. C'est une archive qui provient des lieux de mémoire de Philippe Garbi, le 6 novembre 1997, sur France Culture.
J'étais scout de 13 à 20 ans, et je veux dire que le scoutisme a joué dans ma vie un rôle considérable, parce que j'avais un frère, mais qui était mon cadet de 8 ans, c'est-à-dire que j'étais pratiquement seul à la maison. Et le scoutisme m'a donné une vie de loisir que ma solitude ne me permettait pas d'avoir. Et puis c'était un scoutisme débutant, qui était exaltant parce qu'il était non-conformiste. C'était un extraordinaire magma d'inventions prises aux Anglais, protestants et francs-maçons, aux Peaux-Rouges, alors en mettant là-dessus la chevalerie française et un fond tout de même assez conservateur, ça faisait un maelstrom étonnant. Et en plus, personne ne faisait à l'époque ce que nous faisions en culotte courte avec nos grands chapeaux et nos grands bâtons. Personne ne campait. Donc on avait l'impression d'appartenir à une pointe. C'était à Saint-Honoré-des-Laux, c'est-à-dire là où les scouts de France sont nés. C'était vraiment le chanoine Cornette était encore l'aumônier des troupes Saint-Louis qui se tenaient dans les sous-sols de Saint-Honoré-des-Laux. Je crois que c'est un endroit maintenant où on met les Maccabées. Mais nous avons été joyeux dans ce sous-sol toutes ces années-là.
Ces années-là sont joyeuses, mais on arrive vite dans cette histoire des enfants de France que nous traitons ce matin, Éric Allary, on en arrive aux années noires, c'est-à-dire celles de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement rudes pour les enfants.
Ça a été terrible, puisque les enfants déjà ont été confrontés à certaines évacuations. Près de 38 000 enfants de Paris sont évacués déjà en 1939, avant même la déclaration de la guerre, donc les enfants se préparent.
Vous avez écrit, naguère, un livre sur l'Exode, précisément.
Oui, et avant l'Exode, déjà, les enfants connaissent, entre guillemets, les joies très cyniques et très sombres de la défense passive. Ils s'entraînent à aller vers l'abri le plus proche avec leur instituteur, à mettre leur masque. Il y a des petits-enfants qui ont 3-4 ans, qui portent le masque en bandoulière. Le masque est presque plus gros que leur propre moitié de corps. Et ils apprennent très très vite à se protéger. Mais aussi, les enfants de la guerre sont les enfants qui deviennent de plus en plus silencieux. Il y a ces enfants qui vont connaître déjà l'arrivée des enfants belges dans la première vague de l'Exode au mois de mai 1940, mais aussi de ces Ardennais, de ces enfants qui viennent des Ardennes. Et finalement, les enfants subissent ce premier Exode comme ils subiront encore plus fortement le deuxième Exode qui verra la défaite de la France. Et surtout, beaucoup d'enfants perdus. La Croix-Rouge française a compté près de 90 000 enfants perdus au mois de juin 1940 sur les routes de France. Des histoires, j'en ai des dizaines, voire des centaines, de ces mères qui perdent leurs enfants au détour d'un carrefour, qui leur demandent de s'asseoir sur une marche d'escalier et ne les retrouvent pas en revenant en arrière. C'est aussi l'exode de ces enfants qui sont évacués très rapidement de certains hôpitaux de Lyon, du Loiret, quand les Parisiens s'en vont dans la panique à partir du 10 juin 1940, quand le gouvernement fuit. Près de 2 millions de Parisiens donc évacuent la capitale à partir du 10 juin 1940 et emmenant avec eux bien des habitants entre Paris et la Loire. D'ailleurs, certains disent aux enfants qu'une contre-offensive se prépare sur la Loire, comme il y en a une sur la Marne, en septembre 1914, par exemple. Et beaucoup d'hôpitaux à Paris, mais aussi à Étampes, à Orléans, dans Lyon, vont devoir évacuer des enfants malades, voire des enfants qui seront bombardés ou mitraillés par les Stuka allemands, toutes sirènes hurlantes.
Ce qui explique que la radio de Vichy a une émission hebdomadaire le vendredi pour évoquer le cas des enfants perdus que l'on recherche. Écoutez cet appel qui remonte à 1941.
Eh bien, mes chers auditeurs, nous allons une fois de plus vous présenter notre émission à la recherche des enfants perdus. Cette émission dont nous n'avons plus besoin de souligner l'utilité. Aujourd'hui, nous allons procéder à la lecture d'enfants recherchés. Écoutez tout d'abord le cas que vous présente le ministère de la Famille, le cas d'enfants recherchés numéro 39.
C'est celui de la petite Monique Deilly, âgée au moment de sa disparition de 10 ans. Elle est née à Corby dans la Somme. Elle a disparu le dimanche 17 mai à Amiens au cours d'un bombardement. Elle était à ce moment-là avec son père. On n'a plus trace de l'enfant depuis ce moment. On suppose qu'elle-même a peut-être été blessée et emmenée dans une ambulance ou dirigée sur un hôpital. L'enfant mesurait au moment de sa disparition 1,40 m. Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint très clair, une bonne dentition. Elle n'a pas de signes particuliers physiques, mais elle portait des boucles d'oreilles et une chaîne au cou. Il s'agit, je le répète, de la petite Monique Deilly, disparue à Amiens le dimanche 17 mai.
C'était là le cas de l'enfant recherché, notez-le bien, numéro 39.
C'est le temps aussi, Éric Alary, où le gouvernement de Pétain se préoccupe de former des Français de demain et s'adresse aux adultes. Je pense à ce propos de Pétain lui-même, qui remonte au 13 octobre 1941, lors de la rentrée scolaire. Il s'exprime dans l'Allier. Il dit « Jeunes élèves des écoles de France, si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France, à faire des Français un grand peuple loyal et honnête. Et je ne vais pas attendre que vous soyez de grandes personnes pour vous demander de le faire. » Dans les écoles, on chante « Maréchal, nous voilà ».
On chante « Maréchal, nous voilà » tous les matins, mais on souffre aussi beaucoup de la faim. Quand bien même Pétain fera livrer des tonnes de caséine, c'est-à-dire ces espèces de rebuts de beurre transformés en comprimés. Mais le paradoxe du maréchal Pétain, un de plus, c'est de évidemment culpabiliser les parents en culpabilisant les enfants. C'est aussi en augmentant le nombre d'heures d'éducation physique à l'école. Alors que les ventres sont vides, qu'il n'y a plus de cuir pour chausser les enfants et qu'il n'y a plus de ballons. Les derniers ballons sont envoyés aux prisonniers dans les stalags. Et tout ceci sert à la propagande. Mais au fond, les parents écrivent sans cesse à l'instituteur en disant que on peut pas faire d'éducation physique le ventre vide. Donc c'est aussi l'un des paradoxes. C'est la mise au pas. C'est la mise au pas. C'est un régime autoritaire qui espère former des enfants qui, évidemment, seront à l'opposé des enfants du Front populaire, de ceux qui profitaient du temps libre, du scoutisme, des colonies de vacances qui se sont tant développées dans l'entre-deux-guerres.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
La libération, c'est celle qui voit naître des baby-boomers. C'est le temps où le général de Gaulle réclame des millions de bébés pour la France, de beaux bébés pour la France. Il est d'ailleurs entendu parce qu'il y a un renouveau de natalité très marqué après 1945.
Oui, et ces baby-boomers qui naissent déjà même avant que le général de Gaulle n'appelle les Français et les Françaises à faire de beaux bébés. Il suffit de regarder les archives photographiques pour notamment voir dans les jardins publics à Lyon, à Paris, par exemple, les jardins du Luxembourg, où il y a des dizaines et des dizaines de landaus. C'est assez curieux d'ailleurs, cette démographie croissante en pleine guerre alors que tout va mal, peut-être est-ce pour conjurer le sort, mais effectivement, la croissance démographique reprend fortement en 1943 jusqu'en 1949, à un moment où le rationnement est encore très fort en France. La carte de pain n'a été supprimée qu'en 1949. Il faut rappeler aussi que les enfants ont perdu quelques centimètres pendant la guerre. Je veux dire par là qu'ils auraient dû mesurer entre 4 et 7 centimètres de plus s'ils avaient été nourris normalement. Il y a énormément d'enquêtes qui sont faites à l'issue de la guerre par des pédiatres, par également des physiologues qui travaillent sur le traumatisme psychologique et physique de la guerre sur les enfants. Je pense à Madame Marcus Gessler, qui a travaillé notamment sur les traumatismes psychiques, sur les manques physiologiques, les manques alimentaires. Et les Français font des enfants. Mais les enfants se souviennent d'années difficiles tout de même, ceux qui sont nés à la toute fin de la guerre et qui vont aller, qui vont aller à l'école jusqu'au milieu à peu près des années 50. Cela dit, ce sont aussi des années heureuses, des années de la reconstruction. Mais tout dépend de l'endroit où se trouve l'enfant. L'enfant qui se trouve en Normandie, lui, il vit pas la même chose que celui qui se retrouve dans le centre de la France.
Lait et camembert.
Voilà, et camembert. Et en même temps, c'est aussi l'enfant des ruines. Regardons les enfants des villes détruites. Tours, Saint-Nazaire, Royan. Beaucoup d'enfants meurent au moment, justement, de la reconstruction. Beaucoup d'enfants connaîtront les baraquements, par exemple, au Havre. Donc, je dirais qu'il y a pratiquement autant d'enfants qu'il y a d'enfants.
Les Trente Glorieuses qui suivent sont la période où les enfants sont mieux soignés et où on va progressivement vers ce que, après d'autres, vous avez appelé le temps de l'enfant roi.
Les années du bonheur pour les enfants sont ces années, donc, effectivement, qu'ont connu les baby-boomers. Et ce sont des années où les vaccinations obligatoires vont se multiplier contre la tuberculose, par exemple, la diphtérie, assez tard d'ailleurs, dans les années 60 pour la diphtérie.
La poliomyélite aussi.
La poliomyélite, en 1967, elle devient obligatoire. Et la France est un des pays les plus en pointe à ce moment-là au monde en ce qui concerne la vaccination obligatoire. Il faut déjà lutter contre des parents qui s'opposent souvent à la vaccination. Mettre une aiguille dans le corps, ça n'est pas si facile pour bon nombre de Français. Donc il y a ces années qui sont celles de la reconstruction, celles où les enfants voient pour la première fois, dans les milieux plutôt assez aisés jusqu'aux années 60, leur chambre individuelle. Michel Perrault, l'excellente Michel Perrault, a travaillé sur les chambres d'enfants, nous montre
elle y a consacré un livre aux chambres, magnifique ouvrage.
Magnifique ouvrage sur les chambres, où elle montre que progressivement, donc les classes les plus aisées, les classes aisées citadines vont commencer à doter les enfants de leur chambre individuelle et progressivement, eh bien, cela va redescendre dans les différentes couches sociales, moins aisées de la ville, puis ensuite des campagnes. Ces enfants aussi qui voient des mamans pour la première fois avec des ustensiles de cuisine plus pratiques, voyant des mamans qui leur consacrent un petit peu de temps, enfin, parce que les mamans ont des outils pour travailler plus vite. Mais ces années du bonheur, ce sont aussi les années où les enfants vont voir partir de plus en plus leur maman au travail, au début des années 1960 notamment.
Arrivée de tout l'équipement ménager progressif, naturellement, selon les milieux sociaux. Mais c'est aussi le temps des jouets. Vous attachez beaucoup d'importance dans votre livre, Éric Alary, à ces jouets, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils signifient. Déjà, Tino Rossi chante « Petit Papa Noël » en 1945 avec des jouets par milliers, dit-il. Ils ne sont pas encore par milliers.
Ah non, en 1945, ils ne sont pas du tout par milliers. Qu'avaient les enfants à Noël? Les enfants des familles les plus aisées, citadines, avec quelques jouets qui étaient achetés par les parents dans les grands magasins, les soldats de plomb, les premiers trains électriques, les premiers mécanos également qui venaient de l'étranger. Mais sinon, la plupart des enfants avaient quelques chocolats, la célèbre orange ou la célèbre mandarine au pied du sapin, quelquefois un objet qui avait été sculpté par le père ou par quelqu'un de la famille. Et progressivement, dans les années 1960, les enfants, qu'ils soient seuls ou à plusieurs dans leur chambre, commencent à avoir beaucoup plus de jouets. Alors ce sont des jouets en bois, ce sont les premiers jouets en plastique aussi à la fin des années 1960. Mais un parent ne se formalise pas si son enfant n'a pas de jouets, les jouets qui sont Galerie Lafayette ou des jouets qui sont bon marché. Tout simplement, l'enfant joue dehors, l'enfant joue avec un bout de chiffon. Mais les poupées sont quand même très présentes, après la guerre, dans les chambres des petites filles.
Il y a un point sur lequel on ne peut pas trop insister, Éric Alary, c'est l'amélioration de la santé. Vous en avez déjà dit un mot, mais ça préoccupe beaucoup les hommes politiques du temps. Écoutez donc ce propos du ministre MRP, démocrate chrétien de la santé, le 7 avril 1951. C'est à l'occasion de l'inauguration du Salon de l'Enfance au Grand Palais, encore une institution neuve qui est assez significative de cette évolution. Pierre Schneiter s'exprime de la sorte.
Toutes les nations célèbrent le 7 avril la Journée mondiale de la santé. Cette année, l'accent est mis sur la protection de l'enfance. Le thème adopté est ainsi formulé: votre enfant, comme tous les enfants du monde, a droit à la santé. En France, les efforts en faveur de l'hygiène et de la protection de la mère et de l'enfant ont été au cours de ces dernières années intensifiées au point que l'on peut constater aujourd'hui une réduction très marquée de la mortalité infantile. Il est désormais possible, grâce à la vaccination, soit d'éviter complètement certaines maladies, soit d'amoindrir considérablement la gravité de certaines autres. L'immunisation des enfants s'impose au point que de nombreux pays, comme le nôtre, ont adopté des lois qui rendent la vaccination obligatoire contre diverses affections telles que la variole, la diphtérie et la tuberculose. Mais protéger la santé des enfants ne doit pas être le seul but. On réalise de plus en plus aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'assurer la vie. Il faut non seulement que l'enfant vive à l'abri des maladies, mais qu'il connaisse une existence qui soit, comme le définit la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, un état de complet bien-être physique, mental et social. Il appartient à chacun d'entre nous de perfectionner l'œuvre entreprise pour l'amélioration du bien-être de nos enfants, afin que ceux-ci atteignent un jour l'âge adulte en parfaite santé morale, physique et mentale.
L'évocation de l'Organisation mondiale de la santé n'est pas indifférente. C'est le temps, à partir des années 1990, où les droits de l'enfant sont affirmés, y compris au niveau international.
Oui, et pourtant, si on regarde de près la chronologie du droit international, il y a quand même une musique qui déjà est entonnée depuis les années 20. La SDN, la Société des Nations, en 1924, avait déjà diffusé une déclaration internationale des droits de l'enfant. Et c'est évidemment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Se crée l'UNICEF en particulier en 1946. Pour United Nations International Children's Emergency Fund, c'est-à-dire Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Agence des Nations Unies.
Oui, qui est née donc en 1946, à l'issue de la guerre. Je pense que le monde devait ça aux enfants.
Son siège est d'ailleurs à New York.
Exactement. Il y a donc, l'ONU a beaucoup travaillé depuis la fin des années 1940 sur les droits de l'enfant. En 1959, il y a eu une déclaration en 10 points qui a été reprise en 1989 dans la Convention internationale des droits de l'enfant. On voit bien qu'il y a un travail permanent sur les droits de l'enfant. Le droit international de l'enfant a été de plus en plus transposé dans les droits nationaux et notamment en France.
Cette convention de 89 nous dit ceci. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune et sans distinction de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou sur toute autre situation que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille. C'est l'article premier. La délégation française a joué un rôle important dans cette élaboration.
Oui, la délégation française a beaucoup joué dans la rédaction du texte, et notamment la France a beaucoup insisté sur l'idée que les enfants avaient aussi une opinion, et qu'il ne fallait pas attendre forcément l'âge adulte pour avoir une opinion, et qu'il fallait être capable de les écouter, capable de les prendre évidemment en charge en cas de graves difficultés. La France, en 1990, sera le 23e État à ratifier cette déclaration.
Une autre évolution, c'est celle de la famille, évidemment, avec cette donnée toute simple, dont on ne prend pas toujours la mesure, c'est que en 1975, un mariage sur 6 aboutit à un divorce. En 1980, 1 sur 3. Et en 2010, je n'ai pas les chiffres pour aujourd'hui, en 2010, 1 sur 2. L'enfant devient aussi un objet, dans le pire des cas, de dispute et parfois un lien entre les parents séparés.
L'enfant n'est plus l'assurance pour un couple de la réussite d'une vie. L'enfant devient effectivement un séparateur, et l'enfant est aussi une victime de ces séparations. Et en même temps, les parents n'ont jamais autant choisi d'avoir ou non un enfant, qui est une forme aussi de liberté quand le couple se forme.
Après la loi Veil,
voilà.
Après...
Et cet enfant n'a jamais peut-être été autant choyé, certains pédopsychiatres disent peut-être trop.
C'est l'hyperparentalité, avec l'idée d'une attention excessive, contrôle des gestes, d'où d'ailleurs un stress. On a parlé même des parents drones plus récemment.
Oui, je ne connaissais pas l'expression de parents drones, mais je pense que...
Je suis content de vous apprendre quelque chose sur ce sujet sur lequel vous êtes si compétent, Éric Allary.
Merci. Il nous faudra de façon un autre chapitre, si un jour nous réécrivons une histoire synthétique des enfants, notamment sur l'utilisation des écrans, l'utilisation des réseaux sociaux, car on est en train encore de faire éclater, j'ai envie de dire, la connaissance de l'enfant. Ce qui fait que c'est l'impression que le pédopsychiatre court après, justement, ces problèmes liés à l'enfance.
En somme, quelle que soit l'amélioration peut-être de la situation de l'enfant dans la société, il y a autant d'enfants en danger aujourd'hui que ce pouvait être le cas au début de la période que nous avons évoquée ce matin, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Ce sont des dangers différents, mais toujours prégnants.
Oui, les enfants sont encore victimes d'énormément de dangers. On évoquait à la fin du 19e siècle les enfants martyrs. Aujourd'hui, on a un autre terme, c'est celui de maltraitance. Et évidemment, d'autres problèmes aujourd'hui sont révélés, sont pris aussi en compte par la société. On peut aussi, évidemment, s'en réjouir de savoir que les hommes politiques ne cessent de créer des instances et en même temps de promulguer des lois qui permettent de protéger l'enfant.
La création d'un secrétariat d'État à la protection de l'enfance remonte en France à janvier 2019.
Seulement. Et effectivement, l'impression que pourraient avoir les enfants d'aujourd'hui, c'est que les adultes du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont bien mis du temps à trouver, je dirais, le bon moyen de sauver et d'aider les enfants. Mais ça pose le problème de la parole de l'enfant. Pendant très longtemps, le droit, les gendarmes, les policiers, les juges ont eu du mal à mettre, je dirais, des mots sur la parole de l'enfant. On l'a vu à travers un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire d'Outreau, à la fin des années 1990, où sur la simple croyance de parole d'enfant, plusieurs dizaines d'adultes ont croupi pour rien dans les prisons françaises. Donc c'est extrêmement difficile d'accorder, je dirais, le crédit à toute parole de l'enfance. Mais ça voudrait dire aussi que si on refusait d'écouter les enfants, on se priverait aussi des témoignages et surtout des plaintes de ceux qui ont été abusés sexuellement, qui est aussi un autre problème qui n'est pas celui du 19e siècle ni du 20e, mais aussi du 21e siècle.
Eh bien, nous allons clore notre conversation sur ce propos, Éric Alary. Les enfants aimés, désormais, parfois brutalisés, parfois un peu pénible aussi quand ils sont trop nombreux. Je n'ai pas encore cité la formule d'Alphonse Allais. Il disait « Il y a des jours où l'absence d'ogre se fait cruellement sentir ». Vous connaissiez cette formule ?
Non, vous me l'apprenez, je l'aime bien.
Eh bien, nous terminerons sur Alphonse Allais, ce que je ne déteste pas. Merci beaucoup. Votre ouvrage, sur lequel nous avons largement appuyé cette conversation, s'appelle « Histoire des enfants » des années 1890 à nos jours, et il a été publié il y a un an, par Passé Composé. Vous avez donné aussi, il y a déjà un quart de siècle, une histoire de la gendarmerie chez Calman Lévy, et puis vous publiez ces jours-ci un livre important, c'est toujours la période de la Seconde Guerre mondiale, qui est votre champ d'études particulier, Darnan, une biographie de Darnan, parue chez Perrin. On pourra aussi lire avec profit l'ouvrage d'Aigle Becky, et Dominique Julia, qui s'appelait « Histoire de l'enfance ». Vous pourrez trouver, comme vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site et les références des documents sonores que nous vous avons proposés. Et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était « Concordance des temps », une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec la collaboration précieuse d'Inès Benslama, avec Charles Bouticourt à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon.